Écritures ouvertes et on aimerait que ton Saint-Esprit nous touche, nous parle, nous enseigne et on veut nous remettre entre tes bonnes mains pour la suite. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour Marlou. Alors, j'avais à cœur de parler de la résurrection un petit peu ce matin. Je vous ai parlé du contexte hein, et puis je veux mentionner comment Paul présente la résurrection. Comment il est question de la résurrection, on a passé dans au moins deux passages qui nous en parlent. Hein, par exemple, au verset 8, quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Première chose, première allusion à la résurrection. Puis finalement, verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alors, question de résurrection dans le passage, et j'aimerais parler comment l'apôtre Paul présente la résurrection. D'abord, première chose, il la présente comme l'espérance des croyants. Dans l'Ancien Testament, on voit cette espérance de la résurrection chez les croyants. Par exemple, rappelez-vous de Job, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 19? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et je le verrai au dernier jour. Je vais le dire comme il faut. C'est dans Job 19, c'est pas nécessaire de tourner, mais on voit que la résurrection est sous-entendue dans ce passage-là. Un croyant comme Job attendait cette résurrection. Les croyants dans l'Ancien Testament, espérait cette résurrection. Job 19 nous dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça sous-entend l'espérance de la résurrection, qu'un jour, où Job verrait Dieu. Pensez aux paroles de Marthe, une autre croyante, Marthe, la sœur de Lazare. Elle est au tombeau, elle pleure, elle parle au Seigneur, et elle dit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Les paroles de Marthe, on voit l'espérance des croyants, d'une croyante ici dans la résurrection. Pensez au Seigneur Jésus qui parle je pense, aux publicains qui doutent eux autres de la résurrection. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourquoi il dit ça? Parce que Abraham, Isaac et Jacob vont ressusciter un jour puis obtiendront les promesses que Dieu leur avait faites. Alors, tout ça pour dire que la résurrection, en général, c'est une espérance chez les croyants. Alors, l'apôtre Paul le présente comme ça, déjà dans les versets 6 à 8. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Alors, voilà l'apôtre Paul qui montre son espérance, lui aussi, dans la résurrection, puis dans la réalisation des promesses que Dieu a faites. La promesse de base, c'est que Dieu enverrait Jésus comme Messie, roi, et qu'il établirait son règne. Et tout juif croyant croyait, espérait dans ce règne, dans ce royaume à venir, et ça aurait été en vain si il n'y avait pas eu la résurrection, parce que beaucoup de générations sont mortes. Mais les croyants souhaitaient, aspiraient à la résurrection pour voir, pour rentrer dans le royaume messianique avec le Messie promis tel que Dieu l'avait annoncé. Alors, Paul d'abord présente la résurrection comme l'espérance des croyants. Deuxièmement, Paul présente la résurrection comme la vision qui a changé sa vie. Sur le chemin de Damas, on le voit, Il dit au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, la vision du Seigneur Jésus ressuscité. Il a donné un mandat. Ça a transformé complètement sa vie. L'apôtre Paul, il nous dit, il nous donne un peu son témoignage, comment il était violent contre les chrétiens, comment il était enragé. Il voulait les faire disparaître, les emprisonner, il voulait éteindre la foi chrétienne, tu sais, s'il avait pu. Puis il se démenait comme un bon pour arrêter ce mouvement qui prenait de l'ampleur, le mouvement chrétien, la foi en Jésus. Et il était rempli de haine, de violence. Il le dit lui-même dans les Épîtres à Timothée, hein. J'étais un blasphémateur autrefois, un homme violent. Quand il était sur le chemin de Damas, il a réalisé l'état de son cœur. Il y a une lumière qui s'est faite. Ça le dit, la lumière qui est venue du ciel. Hein? Nous tombâmes tous par terre, verset 13. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Quand la lumière s'est faite, il a vu son cœur. Il a vu la violence, la haine, le potentiel de mal, de méchanceté qu'il y avait en lui. Ça a comme, il a allumé, hein, une certaine façon de parler. Il a vu l'état de son cœur. Son cœur était beaucoup plus mauvais qu'il l'aurait jamais imaginé. Et c'est le cas pour chacun aussi. On a un potentiel de mal en nous qui est beaucoup plus grand qu'on veut bien l'admettre ou qu'on le réalise. Le cœur humain, malheureusement, a été corrompu par le péché. Et il y a toutes sortes de mal potentiel qui en sortent. Le Seigneur Jésus en parle dans les évangiles. Hein. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et là, il fait une liste de choses. Alors, l'apôtre Paul a réalisé la corruption de son cœur, qui était beaucoup plus grande qu'il l'aurait jamais imaginé. Puis en même temps, il a réalisé que la sainteté de Dieu était beaucoup plus grande qu'il n'aurait jamais imaginé aussi. Et, tu sais, il y a eu un choc là, qui s'est produit. La lumière qui s'est faite dans son esprit, il a allumé. Il a dit, waouh! Le Seigneur est saint, absolument saint. Moi, je suis pécheur, absolument corrompu. Et c'est là que la transformation s'est faite. C'est là qu'il a été réellement sauvé et qu'il ait été mandaté par le Seigneur d'annoncer la repentance et la conversion à Dieu. Il a reçu un mandat d'aller vers les païens, vers les Juifs aussi en premier, ensuite vers les païens pour annoncer la repentance et la conversion à Dieu. Au verset 20, si vous voulez le voir. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà le message. Voilà ce qui l'a transformé, lui. Et ensuite, voilà le message qui s'est mis à annoncer partout. Alors, deuxièmement, l'apôtre Paul présente la résurrection comme la vision qui a changé sa vie. Troisièmement, Paul parle de la résurrection comme l'accomplissement des Écritures. On le voit au verset 22-23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alors, Paul parle de ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver. Donc, il parle de ce qui était annoncé des siècles et même des milliers d'années avant que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre. Les prophètes et Moïse, ce qui était annoncé d'avance. Et je vous donne quelques exemples. Déjà, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 53, qu'on connaît tous, j'espère, c'est le grand chapitre de la substitution Il est dit dans le chapitre 53, je vais y aller pour le dire correctement, au verset 12, après avoir parlé des souffrances du serviteur de l'Éternel, parce que c'est comme ça que le Seigneur Jésus est dépeint dans Ésaïe 53, le serviteur de l'Éternel, après avoir décrit ses souffrances, on voit au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc, ça sous-entend la résurrection ici. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'est-ce qui arrive? Dieu va lui donner sa part avec les grands. Donc, ça sous-entend sa résurrection. Déjà, sa résurrection est annoncée par ce passage-là. Un autre passage dans Psaume 16, il est dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, on voit, c'est David, c'est un psaume de David, 1 000 ans avant la venue du Seigneur Jésus, 1 000 ans avant, il dit, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Dans le Seigneur Jésus, dans le tombeau, pendant les 3 jours qu'il a passé là, il n'y a pas eu de décomposition, de début de décomposition de son corps. Il a été préservé, protégé. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Parce que vous savez que dès que quelqu'un meurt, il y a un processus de décomposition qui commence. Hein? Je n'ai pas été témoin directement de ça, mais on ne souhaite pas non plus. Mais c'est ce qui arrive au corps humain. Dès qu'on meurt, il commence un processus, il commence à avoir une odeur, il commence à avoir un dépérissement du corps. Mais pour le Seigneur Jésus, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le Seigneur Jésus a été protégé dans le tombeau jusqu'au moment de sa résurrection. Un autre passage, je vais juste mentionner quelques passages. Ésaïe 20, pas vrai, psaume. 22, psaume 22. Ça aussi, c'est un long chapitre qui nous parle des souffrances du Seigneur Jésus. 1 000 ans d'avance. On est 1 000 ans d'avance. La crucifixion n'est même pas un processus utilisé pour exécuter encore. Puis on a une description de la crucifixion qui est remarquable. La crucifixion n'est même pas encore un moyen d'exécution dans le monde. 1 000 ans d'avance. Et on voit un revirement dans le chapitre 22. Après avoir décrit les souffrances du Seigneur qui allait venir, il y a un revirement tout à coup dans le chapitre, si vous remarquez. Voyez-vous, ça commence avec mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au début du chapitre 22? Et on s'en va jusqu'au verset 21, protège mon âme. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Et au verset 23, tout à coup, il y a un revirement. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a sous-entendu une résurrection, la résurrection du Seigneur. Après les souffrances, sa résurrection. Voyez-vous, il y a un revirement tout à coup dans notre chapitre 22. Qui est soudain, qui contraste complètement. Alors, encore là, la résurrection du Seigneur est sous-entendue. Et il y a d'autres passages aussi. C'est juste quelques exemples pour montrer comment la résurrection du Seigneur était annoncée d'avance. C'était l'accomplissement de ce que les prophètes et Moïse avaient annoncé d'avance. Alors, jusque-là, ça va? Paul présente donc la résurrection comme l'espérance des croyants. Il la présente comme la vision qui a changé sa vie. Il la présente comme l'accomplissement des Écritures. Et quatrièmement et finalement, il la présente comme la vérité qui place chacun devant une décision. Et on le voit avec le gouverneur Félix et le roi Agrippa. On voit qu'ils sont comme placés devant une décision. La résurrection du Seigneur place chacun de nous aussi devant une décision. Et c'est comme ça que on voit la suite du passage. Festus, lui, j'ai dit Félix, mais je me trompais, c'est Festus. Là, il commence à se sentir mal. Lui, c'est un Romain. C'est le gouverneur qui est nouvellement en poste. Puis pour lui, la résurrection, c'est un non-sens. Lui, c'est un rationnel. C'est un rationnel, puis regarde, ces affaires-là, là. Alors qu'il intervient tout à coup, il interrompt Paul au verset 24, puis il dit quoi? Il dit, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Hein? Pour lui, il est étonné qu'un érudit comme Paul puisse croire à la résurrection des morts. Voyez-vous, lui, c'était un rationnel, c'était un Romain. Il est chez les Romains, c'était pas l'idée de résurrection, c'était un non-sens, tout simplement. Alors, voilà sa réaction. Puis, il y a des gens, quand ils sont placés devant l'Évangile, aussi, c'est des rationnels qui ferment la porte. Puis, c'est ce qu'il a fait, fermer la porte. Au lieu de croire, il a fermé la porte tout de suite. Ça n'a pas été long. Maintenant, le roi Agrippa, lui, réagit d'une autre façon. Mais lui aussi, il est embarrassé. Lui, c'est plutôt, il est soucieux de sa position. Il est roi, il est ami avec les Romains, il ne veut pas se mettre les Juifs à dos. Donc, il devient inconfortable, puis il va tourner ça un peu en ridicule. Quoi? Tu vas bientôt me demander de devenir chrétien? Verset 27. Parce que l'apôtre Paul vient juste d'y demander, oui, crois-tu au prophète ou à Agrippa? Je sais que tu y crois, parce qu'Agrippa était juif. Mais là, Agrippa, il est mal à l'aise. Parce que s'il dit qu'il croit à la résurrection, il serait obligé de dire qu'il croit à la résurrection de Jésus aussi. Ça va de soi. Mais là, s'il affirme ça, le Romain, il perd ses amis romains, ils vont dire, il est fou. Puis si il dit qu'il croit à la résurrection du Seigneur Jésus, les Juifs pharisiens vont se revirer contre lui. Alors, il est comme coincé, embarrassé. Alors, il tourne ça en ridicule. Il tourne ça en joke. Ouais, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voyez-vous, il va avec l'humour, un humour qui n'est pas trop. Je ne sais pas comment dire. Sarcastique. Oui. Pourrais-je parler dans ce sens-là? Alors, on voit sa réaction là aussi. Devant l'Évangile, devant la vérité, on voit comment il réagit. Il réagit. Joke, l'humour, tu sais, parce qu'il sent mal. Alors, c'est comme ça qu'il réagit Agrippa. Alors, on a deux réactions dans notre texte qui nous montrent comment, devant une décision, ils ont esquivé. Un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais là, j'aimerais terminer en disant, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si Festus, le nouveau gouverneur, puis Agrippa, le roi, avaient accepté le Seigneur, avaient accepté le fait de la résurrection du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui se serait passé? Bien, on le voit dans le verset 18-19. Qu'est-ce qui se serait passé? Verset 18, je vais le relire, le verset 18, il est important. Afin que tu leur ouvres les yeux, ça c'est le message que Paul devait annoncer, c'est le Seigneur Jésus qui lui parlait, il lui dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et un petit peu plus loin, au verset... À la fin du verset 20, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. On va regarder ces quatre choses ensemble pour terminer notre message. Qu'est-ce qui se serait passé si le gouverneur puis le roi avaient accepté la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, s'ils s'étaient repentis, s'ils s'étaient tournés vers Dieu? D'abord, il y aurait eu un changement de compréhension dans leur tête. Ils seraient passés des ténèbres à la lumière. Changement de compréhension. Ça aurait été complètement différent dans leur façon de voir les choses. N'est-ce pas? Ils seraient passés des ténèbres à la lumière. Parce que la parole de Dieu nous dit, en fait, que les hommes, les femmes, ont l'intelligence obscurcie. Hein? C'est dans Éphésiens 4. Les hommes, les femmes, on vient au monde avec l'intelligence obscurcie. On vient au monde avec l'intelligence aveuglée, nous dit 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. L'intelligence aveuglée, obscurcie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer des ténèbres à la lumière. Et la lumière, c'est un synonyme du salut. Alors, c'est ce qui se serait passé si Festus, si Agrippa avaient reconnu la résurrection du Seigneur Jésus, s'ils avaient reconnu son autorité, s'ils avaient vu qui il est vraiment, eh bien, ils auraient changé de compréhension sur le qui est Seigneur, puis sur leur état devant lui. Ils auraient aussi passé par un changement de royaume. Regardez, passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est un changement de royaume, ça, là. On est dans un royaume quand on vient au monde. Quand on vient au monde, on est dans le royaume du prince de ce monde, du Dieu de ce siècle, que c'est comme ça que Satan est appelé, dans un royaume où le mensonge règne. C'est un royaume des ténèbres où le mensonge règne. Alors, toutes les religions sont bonnes. Ça, c'est un mensonge qui règne. On vient, on est le produit de l'évolution sur des milliards d'années. C'est un autre mensonge énorme. Et c'est comme ça, le royaume des ténèbres. C'est un royaume de mensonges qui garde les hommes dans l'ignorance, loin de Dieu. Et il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce royaume de ténèbres. Satan est appelé le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle. C'est pas pour rien, c'est pas des titres qui décrivent quand même une certaine puissance que Dieu permet, une puissance. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer, nous dit Colossiens 1, 13, hein, nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a un changement de royaume. Et c'est ça que Festus et Agrippa, s'ils avaient cru à la résurrection du Seigneur, s'ils s'étaient soumis à l'autorité du Seigneur ressuscité, eh bien, ils auraient changé de royaume. Une autre chose. S'ils s'étaient convertis au Seigneur, s'ils s'étaient repentis, ils auraient passé par un changement de statut aux yeux de Dieu. Leur statut n'aurait pas été le même. Ils auraient pu être des condamnés, mais ils seraient devenus des héritiers. Hein? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y aurait eu un changement de statut. Ils auraient passé d'un statut, je me répète, de condamnés à cause de leurs péchés. Ils auraient obtenu le pardon et ils seraient devenus des héritiers avec Christ, des héritiers de Dieu. Il y aurait eu un changement de statut complet devant Dieu. Et je termine par un dernier point. Ils auraient passé par un changement de conduite parce se seraient mis à pratiquer des œuvres dignes de la repentance. On le voit à la fin du verset 20, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il y aurait eu un changement de conduite dans leur vie. Au lieu de poursuivre des buts égoïstes, personnels, de convoitises de toutes sortes, ils se seraient mis à vivre pour le Seigneur, puis à vivre pour porter des fruits pour le Seigneur. Il y aurait eu un changement de conduite qui se serait produit. Alors, ça aurait changé. Je termine en disant, avec une question, en quoi la résurrection me concerne-t-elle? Ça me concerne parce que ça nous place tous devant une décision. La résurrection du Seigneur me place devant une décision. Est-ce que je veux reconnaître son autorité? Hein, Un jour, c'est lui qui va juger le monde. C'est lui qui va juger le monde. Dans Acte 17, c'est dit, Acte 17, 31, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dans Acte 17, c'est dit, Acte 17, 31, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude ou qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Alors le Seigneur Jésus, un jour, ça me concerne la résurrection parce qu'un jour, le Seigneur Jésus va juger les vivants et les morts. Ça m'inclut. Ça nous inclut tous. Puis tous, on va passer par une résurrection. Dans Jean 5, je termine là-dessus, Jean 5, 28, 29, nous montre que tous, on va mourir, OK? À moins que le Seigneur revienne aujourd'hui, mais en général, règle générale, on va mourir. Mais tous, on va ressusciter. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 5. Il dit, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça inclut tous les hommes, ça inclut toute l'humanité. Tous vont ressusciter un jour. Dans l'évangile de Jean, c'est important de le dire, de mentionner, quand c'est dit, ceux qui auront fait le bien. Savez-vous, c'est quoi faire le bien dans l'évangile de Jean, dans le contexte de l'évangile de Jean? Faire le bien, c'est proche, mais c'est de croire au Seigneur Jésus. Relisez l'évangile de Jean, vous allez voir le contexte, c'est de croire au Fils de Dieu qui est venu. Faire le bien dans l'évangile de Jean, c'est pas de faire des choses, c'est de croire. C'est de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Alors, on va terminer là-dessus. Oui, la résurrection nous concerne tous. Et la résurrection du Seigneur Jésus me place devant une décision. La décision de le reconnaître, de reconnaître son autorité, de reconnaître sa sainteté. Puis en même temps, oh, je prie que la lumière se fasse dans chacun, chacune, que la lumière qui est venue du ciel sur le chemin de l'apôtre Paul, nous viennent aussi, de manière spirituelle, dans nos cœurs, dans nos esprits, pour nous montrer la sainteté de Dieu. Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus saint qu'on peut l'imaginer. Et moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pécheur que je veux bien l'admettre. Mais quand la lumière se fait, on se tourne vers le Sauveur, on vient à ses pieds, on lui demande de nous prendre, de nous accepter, de nous pardonner, de nous réconcilier avec Dieu. On va prier. Seigneur, on est reconnaissant de ce que tu nous as envoyé un sauveur, tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, et tu ne l'as pas épargné à la croix, mais tu l'as livré pour nous tous. Seigneur, pour qu'il devienne le substitut, pour porter notre châtiment, pour subir ta colère, pour qu'on en soit dégagé, pour qu'on en soit libéré. Seigneur, on est reconnaissant de ce que le Seigneur Jésus est vivant, de ce qu'il est accessible. On peut lui parler, on peut s'approcher de lui. Il a les bras ouverts. Et je te prie pour chacun, chacune ici, ce matin, que cette réconciliation qui est offerte puisse être reçue, acceptée de tous, pour que chacun puisse jouir de ton pardon, de ta paix, et de vivre dans l'espérance de bientôt se retrouver avec toi pour toujours. On veut nous remettre entre tes bonnes mains maintenant, te demandant de nous accompagner, garder, nous protéger, nous consoler selon les besoins, nous accompagner en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus. Amen.